C'est un plaisir avec Anne, mon épouse, d'être parmi vous. On a vécu dans le temps passé tellement de belles choses avec cette église de grâce. Voilà. Et il y a plein de visages qui me rappellent plein de choses. N'est-ce pas? Voilà. Donc je suis là dans le cadre d'un échange de chair avec l'église d'Antibes et de Nice. Daniel est à Nice, je crois. C'est précieux de pouvoir se retrouver. Il y a quelque temps, j'ai invité une jeune fille. On a invité une jeune fille à la maison pour passer une soirée, pour parler avec elle. Et puis à la fin, en repartant, elle me dit avec un sourire coquin, elle me dit « Mais je suis étonné que tu m'aies pas proposé un service, une activité, un ministère dans l'Église. Parce que j'ai la réputation d'encourager chacun à s'engager dans le service pour le Seigneur. Peut-être parce que dans ma vie, j'ai tellement... eu de joie à servir le Seigneur, à le suivre comme un disciple, que j'ai envie de partager cette joie-là. Alors le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est, pourrait se résumer ainsi, le service pour le Maître, le service pour Jésus, c'est pas un pénible devoir de bon chrétien, parce qu'il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Mais c'est pas non plus une option facultative qu'on pourrait prendre suivant nos envies. Je suis persuadé que le service pour Jésus, c'est à la fois un ordre qu'il nous donne et c'est aussi un immense privilège de pouvoir servir à son royaume. Je voudrais partager avec vous ce matin deux textes, un dans le Nouveau Testament, que je vous propose de lire tout de suite dans la première épître aux Thessaloniciens et un second à la fin, qui est un appel qu'on reçoit dans l'Ancien Testament. Voilà, je vous invite à lire 1 Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 2. Nous rendons continuellement grâce, c'est Paul, Sylvain et Timothée qui écrivent à une église de Thessalonique. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et les imitateurs du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Déjà dans les premiers mots de l'apôtre, on les voit, ces trois serviteurs de Dieu que sont Paul, Sylvain et Timothée, être des magnifiques encourageurs pour cette église de Thessalonique. On dirait qu'ils s'effacent eux-mêmes et ils observent, ils contemplent, ils regardent le travail de leurs frères et sœurs à Thessalonique. Et en plus, ils prennent le temps de leur écrire, de leur dire, et je trouve qu'ils sont en ce sens de vrais pasteur pour cette église. Et c'est une première instruction que je retire de ces paroles-là. Sachons faire comme eux et peut-être prendre la plume, une souris d'ordinateur, un téléphone pour encourager, pour remercier, pour voir le service de nos frères et sœurs dans l'église. Ça fait du bien d'être encouragé et le Seigneur nous y appelle. Je trouve ensuite dans ce texte trois moteurs ou trois piliers d'un service efficace à la gloire de Dieu. Et c'est, on le trouve dans le verset 3. Le premier moteur de notre service, c'est notre foi. L'apôtre dit, il remarque l'œuvre de votre foi. C'est la foi qui doit produire les œuvres et non pas l'inverse. Le deuxième moteur que Paul souligne là, c'est le travail de votre amour. C'est notre amour pour le Seigneur qui doit nous pousser, nous engager à le servir. Sinon, notre service va être sec, va être froid. Le troisième moteur, c'est l'espérance, la fermeté de votre espérance. C'est l'espérance en Dieu. On a tout en lui, c'est cette espérance-là qui nous donne la persévérance dans notre service pour lui. Et puis, il n'est pas de moteur sans carburant. Et on trouve à la suite de ces versets trois carburants qui alimentent ces moteurs. Le premier, c'est Jésus-Christ. Ces Thessaloniciens étaient les imitateurs de Jésus-Christ. Le deuxième carburant qui alimente notre service, c'est la parole de Dieu. Ces Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu malgré les afflictions, les souffrances. Ils l'avaient reçu. Et ce troisième carburant, c'est l'Esprit-Saint. Ils avaient reçu la parole de Dieu avec la joie de l'Esprit-Saint. Et quand on a ces trois moteurs que sont la foi, l'espérance et l'amour, alimentés par Jésus-Christ, par la parole de Dieu et par l'Esprit-Saint, il y a là tous les ingrédients pour une vie et un service explosif à la gloire de Dieu. Je voudrais maintenant m'arrêter sur les versets 9 et 10 que je voudrais relire parce qu'ils sont tellement importants. Je vais les relire. L'apôtre dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. » Et je trouve là quatre enchaînements auxquels on ne peut échapper si on veut servir le Seigneur. Le premier, c'est vous êtes converti à Dieu. Les premiers mots de Jésus dans sa première prédication sont ceux-ci, repentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. La première prédication de Pierre aussi dans les Actes, c'est la même chose, repentez-vous et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans conversion, sans changement de vie, il n'y a pas de service possible à la gloire de Dieu. La deuxième étape de cet enchaînement, c'est abandonnant les idoles. Vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles. Une véritable conversion ne va pas sans changement de vie. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Vous avez été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort et nous marchons en nouveauté de vie. » Jésus a dit aussi « On ne peut pas servir deux maîtres. » C'est soit Jésus-Christ, soit le diable et d'autres idoles. Convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour le suivre, lui, Jésus-Christ, comme notre maître. Troisième étape, converti à Dieu, abandonnant les idoles, alors on peut servir le Dieu vivant et vrai. Quel honneur d'être au service de ce Dieu créateur, de ce Dieu puissant, aimant. Quel honneur d'être employé à son service pour le royaume de Dieu. La quatrième étape, c'est attendant son retour. On ne travaille pas, on ne sert pas le Seigneur juste pour la terre, juste notre vie est tellement courte. On travaille pour l'éternité avec le Seigneur, en attendant son retour. C'est ça aussi qui nous motive. Notre service va au-delà du présent. Il va pour l'éternité. Alors vous me direz peut-être, mais c'est quoi le service? C'est quoi le service pour le Maître? J'ai trop souvent entendu dans ma vie lier le service parmi les églises et les chrétiens. On lit trop souvent le service à l'église. Et j'ai souvent entendu des gens dire « Mais moi, j'ai rien, j'ai pas de service, je fais rien pour le Seigneur. On me confie rien, je sers à rien. » Quelle erreur! on ne sert pas l'Église, on sert le Dieu vivant et vrai. Et tous les enfants de Dieu sont appelés à servir le Dieu vivant et vrai. Alors, où est-ce que ce Dieu vivant et vrai nous attend à son service? Je voudrais en citer quatre lieux, quatre domaines où nous sommes appelés à le servir. Il y en a bien d'autres. La première, c'est dans ma relation avec lui comme adorateur. C'est Paul aussi dans l'Épître aux Romains qui dit « Offrez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. » Notre premier service pour Dieu, c'est de l'adorer. Et ça, je crois que c'est à la portée de tous. C'est pour chacun de nous. Parce qu'il est grand, il est aimant, adorons-le. Le deuxième domaine où nous sommes appelés à le servir, c'est dans nos familles. Et je voudrais vous lire à cet égard quelques versets dans deux psaumes, 128 et 126, que je trouve très encourageants et très beaux. Dans le psaume 128, on lit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Puis quelques lignes plus haut, dans le psaume 126, on lit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Notre famille, c'est notre lieu d'intimité le plus fort. C'est un lieu où peu de gens rentrent, on ouvre nos portes, mais notre intimité profonde, souvent personne la connaît. Mais Dieu la connaît et Dieu veut être dans cette intimité-là. Et c'est là, dans cette intimité, que Dieu veut nous voir le craindre, vivre pour lui. Il y a des promesses qui se rattachent à ça, on les a lues. C'est là que Dieu veut me donner la joie, la prospérité avec mon conjoint, avec mes enfants. Et ceux qui ont une longue vie comme moi, qui ont eu des enfants, qui ont eu des choses pas faciles à vivre, on sait que parfois dans nos vies de famille, on s'aime avec larmes. On passe des moments difficiles que beaucoup ne connaissent pas. Mais Jésus veut être là, Dieu veut être là dans ces moments-là. Et il nous dit cette promesse, parfois on sème en pleurant, mais on récolte avec chant d'allégresse. Et les plus belles gerbes qu'on peut récolter, souvent elles sont dans nos familles. Et d'ailleurs, une des qualités principales d'un ancien, d'un pasteur, c'est de savoir bien diriger sa maison pour pouvoir après diriger l'Église. Le troisième domaine où le Dieu vivant et vrai nous attend à son service, c'est dans notre travail séculier, dans notre quotidien. J'ai toujours été interpellé par ce, juste avant de partir, Jésus a réuni ses disciples et leur dit « Faites de toutes les nations mes disciples. » Il ne les envoie pas dans le temple ou dans une église, il les envoie vers les nations. Et Jésus nous envoie chacun de nous dans notre bureau, dans notre atelier, dans notre voisinage, dans notre terrain de boule avec mon ami là-bas, et nous envoie dans nos relations pour faire des disciples. Et on est tous appelés à servir pour proclamer l'Évangile. Une autre des qualités d'un ancien, d'un pasteur, c'est d'avoir un bon témoignage avec ceux du dehors. Et le troisième domaine, c'est dans l'Église. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne servait pas à l'Église, mais on sert dans l'Église. L'Église, j'ai entendu des prières tout à l'heure, c'est cet endroit, ce camp de base, ce foyer où l'on peut se retrouver, où l'on peut prier ensemble, se nourrir de la parole de Dieu, s'encourager, se consoler, vivre la communion fraternelle. On vit de très belles choses dans l'Église, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, il y a des combats, et on est chacun appelé à être des ouvriers dans ce travail, dans l'Église, dans la collectivité. D'ailleurs, on lit dans les Épîtres souvent ces mots, à chacun la grâce a été donnée, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, il y a un don pour chacun. Et un peu plus loin, il dit, c'est de Jésus-Christ que tout le corps tire son accroissement selon la force de chaque partie et s'édifie ensemble. On est appelé chacun à participer à l'édification de l'Église. Et je voudrais ouvrir une parenthèse sur quelques ennemis du serviteur de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis quand on veut servir le Seigneur, mais je voudrais en prendre juste quatre qui me semblent importants. Et ces ennemis-là, ils ne sont pas souvent ceux qui viennent du dehors avec des fusils ou des persécutions qu'on ne vit très peu dans nos pays, mais ils viennent du dedans. Jésus dit, c'est pas ce qui vient de l'extérieur qui nous souille, c'est ce qui sort de nous. Alors le premier ennemi que je voudrais cibler, c'est celui qui est la fatigue, le découragement. Souvent on sert le Seigneur, puis à un moment donné, on se fatigue, on a envie de baisser les bras, on est découragé. Et en réfléchissant pour moi-même, dans ma propre vie, je me dis que souvent cette fatigue, ce découragement, ça vient parfois d'un surmenage, on en fait trop, mais souvent ça vient d'un petit truc à l'intérieur qui s'appelle l'orgueil. Et j'ai souvent été touché par l'histoire d'Élie, le prophète, qu'on trouve dans 1 Roi 18 et 19. Ce prophète qui, avec une grande dépendance de Dieu, avec beaucoup de foi, il a exécuté 850 faux prophètes, idolâtres, tout seul, dans un moment où le peuple de Dieu était vraiment en mauvais état. Mais dépendant de Dieu, obéissant à Dieu, il a fait cette chose extraordinaire. Et quelques heures plus tard, on le retrouve, suite à la menace de Jézabel, qui était la femme du roi, on le retrouve sur un sentier dans le désert, abrité sous un genêt, complètement épuisé, découragé, il a envie de mourir, il n'a plus envie de vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Dieu aime son serviteur, il va le chercher par deux fois. Si on lit cette histoire, Dieu va le chercher dans ce chemin du désert et lui dit « Mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mon serviteur, c'est pas là que je t'ai envoyé. Mais qu'est-ce que tu fais là, découragé, épuisé au bord du chemin ?» Élie va sortir ce qu'il avait dans les tripes et il va dire « Mais Dieu, tu vois pas que tout ton peuple, là, ils t'ont abandonné, ils ont détruit les autels, ils ont tué les prophètes ?» Et il rajoute « Et je suis resté moi seul. Moi seul, je suis resté à ton service. » Et voilà. Voilà là où Dieu met le doigt. Élie s'est cru seul. Et il a accusé tous les autres. Et cet orgueil qui est né dans le cœur d'Élie va le conduire à la dépression, va le conduire au découragement et va le conduire à accuser tous les autres et même à perdre son ministère. L'orgueil nous disqualifie toujours comme serviteurs de Dieu. C'est un poison qu'il nous faut remettre à la croix et demander au Seigneur de nous en débarrasser. Le deuxième ennemi du serviteur de Dieu, c'est cet esprit de comparaison. Je ne vous connais pas tous, je me connais, je connais la vie de mon Église et souvent, en moi-même et dans beaucoup de cas, j'entends dire « mais c'est toujours les mêmes qui font tout, c'est moi qui fais ça et le frère, la sœur qui est assis au fond de la salle, il ne fait jamais rien, il vient, il profite de tout ». Et on se compare les uns aux autres. Un peu comme Marthe qui est allée voir Jésus, qui lui a dit, mais, oh Jésus, tu vois pas ma sœur, elle fait rien, c'est moi qui fais tout. Que de fois cet esprit de comparaison nous fait baisser les bras et nous disqualifie aussi comme serviteurs de Dieu. Le troisième ennemi du serviteur de Dieu, qui est plus subtil et dangereux, c'est cette façon qu'on a de faire les choses pour mériter des fois la reconnaissance de nos frères et sœurs, pour mériter, on nous voit, on mérite d'être reconnu, d'être apprécié. Mais le pire, c'est que parfois on est capable de servir pour mériter quelque chose par rapport à Dieu. comme si Dieu nous était redevable, si on l'a bien servi, si on a bien servi à son royaume. Et j'aime ce que Jésus dit dans Luc 17, quand il parle du devoir du serviteur, dans cette parabole du maître et du serviteur. Jésus dit « Le maître ne doit rien au serviteur qui est sous ses ordres. » Et il dit à ses disciples « Quand vous aurez fait tout ce que je vous ordonne, dites « Nous avons fait ce que nous devions faire. » Ce n'est pas un exploit de servir le Seigneur. C'est un privilège, ça découle du cadeau merveilleux qu'il nous a fait de la vie éternelle. Ce n'est pas un exploit, c'est normal. Et le quatrième ennemi du serviteur de Dieu, qui est peut-être plus anecdotique, mais qui fait des ravages, c'est la paresse. Et je trouve dans le livre des Proverbes des versets qui sont succulents à cet égard. Quand on s'y arrête, c'est très très parlant. Il y en a un dans Proverbe 6 que même les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent, qui nous dit « Va vers la fourmi, paresseux. Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, on peut croiser les bras, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Hein, cette paresse qui nous rend pauvres, les paresseux, même matériellement, s'appauvrissent, parce qu'en général, c'est par le travail qu'on s'enrichit. Mais spirituellement, la paresse nous rend très pauvres aussi. Et nous rend très vulnérables. Que le Seigneur nous donne de faire attention à cela. Un deuxième verset qui est aussi très, très fort, c'est dans Proverbe 26, où il est dit que le paresseux plonge la main dans le plat et il trouve pénible de le porter à sa bouche. C'est amusant, mais spirituellement, c'est tellement parlant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ou des fois on se dit, je vais me nourrir de la parole de Dieu, je vais prendre un moment pour prier, pour lire la parole de Dieu. Et puis on s'installe à son bureau quelque part, et puis on ouvre la parole de Dieu, et puis on commence à lire, et puis notre esprit va dans tous les sens, on pense au match de foot qui va commencer, on pense au film qui nous attend. On met la main dans le plat, dans cette nourriture tellement belle qu'est la parole de Dieu, et puis on ne s'en nourrit pas. On ne prend pas le temps de la ruminer, de la digérer, de s'en nourrir. On met la main dans le plat, on ne la ramène pas à la bouche. Un autre verset, le Proverbe 22, qui dit « Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Si je sors, il va me tuer. » Et je trouve ça que deux fois. Dans ma vie, j'ai entendu l'appel du Seigneur qui me dit « Mais allez, Jean-Pierre, viens, j'ai besoin de toi, je vais t'envoyer là, je veux te confier ce service. » Et puis, on est bien au chaud, puis on trouve des tas de prétextes, comme Gédéon, comme Moïse, pour dire « Mais Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça, envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas compétent. » Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, quoi ? Et si je me rate, si j'y arrive pas ? Et on trouve plein de prétextes pour dire « il y a un lion dehors, je reste, je bouge pas. Je prends pas le risque de faire confiance au Seigneur et d'aller où il m'appelle. Il y a un lion dehors, si je sors, je serai tué. » Et puis il y a un autre verset qui parle de l'immobilisme d'une façon très imagée. « Le paresseux tourne sur son lit comme la porte tourne sur ses gonds. » Une porte qui tourne sur ses gonds, elle tourne pendant 50 ans, 100 ans, elle n'avance pas d'un pas. Et nous aussi, on peut être spirituellement comme ça. On tourne sur notre lit et on n'avance pas. On est immobile. On reste dans l'immobilisme en tant que chrétien, et ça peut même arriver en tant qu'église. Si on reste paresseux, on n'avance pas. Je voudrais conclure par ce verset que je vous ai promis dans l'Ancien Testament, qu'on trouve dans 2 Chroniques 29. C'est une période du peuple d'Israël où une nouvelle fois le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, avait abandonné l'Éternel. On trouve très souvent dans le peuple d'Israël ces hauts et ces bas. Et à ce moment-là, il y a un nouveau roi, un jeune homme de 25 ans, qui se retrouve à la tête du peuple d'Israël. Il a 25 ans et il s'appelle Ézéchias. Et ce jeune roi, quand il arrive au pouvoir, qu'il voit dans quel état est le peuple, il est complètement bouleversé devant Dieu, parce qu'il aime Dieu, et il se dit « c'est pas possible ». Il se lève et il va voir ses copains sacrificateurs et lévites, ces hommes qui étaient au service de la maison de Dieu, qui avaient été appelés par Dieu à servir et qui s'étaient éloignés aussi de leur service. Ézéchias se lève, va les voir et leur lance cet appel solennel, cet appel fort et puissant que Jésus-Christ m'a envoyé personnellement et qui nous donne ce matin, je crois, à chacun, c'est celui-ci. Maintenant, cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligent, vous avez été choisis pour vous tenir à son service pour lui offrir des parfums. Et c'est magnifique de voir ce simple appel si fort qu'Ézéchias a lancé. Aussitôt, les lévites et les sacrificateurs se lèvent comme un seul homme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas de suite au travail. Ils se lèvent pour se sanctifier et pour purifier la maison de l'Éternel, pour demander pardon à Dieu de s'être éloigné, de l'avoir abandonné. Et après, ils vont le servir. Ils se levèrent comme un seul homme pour se sanctifier et purifier la maison de l'Éternel. Et quand on lit tout ce passage, et chapitre 29 et jusqu'à 31, on voit le réveil magnifique dans ce peuple. Et à la fin, j'aime le résumé de la vie d'Ézéchias, au chapitre 31, verset 20, on lit « Ézéchias fit ce qui est bien, il fit ce qui est droit ». Ce qui est vrai devant l'Éternel. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour le commandement. Il agit de tout son cœur et il réussit. J'ai envie de vous adresser cet appel d'Ézéchias, ce modèle d'Ézéchias. Cessons d'être négligents. Tenons-nous à son service, mettons-y tout notre cœur et nous réussirons. Nous réussirons dans nos vies, l'Église va grandir, va croître, l'Éternel va bénir. Si nous nous tenons simplement à son service, lui, il agira. J'ai envie de vous proposer de prendre quelques instants de recueillement. On peut incliner nos têtes, se placer devant le Seigneur et peut-être lui demander de nous engager à nouveau à son service ou de nous encourager à continuer à persévérer dans ce service pour le Maître. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais c'est aussi un engagement qu'on peut prendre simplement en se levant à sa place pour manifester qu'on veut cesser d'être négligent et de nous engager à sa suite. Et je terminerai par la prière.